Pour certaines prises en charge, le parcours de soins, c'est pas toujours un parcours de santé. Sauf si on le juge par le nombre de kilomètres parcourus. Un rendez-vous chez un médecin de ville, suivi par une consultation chez un spécialiste en hôpital, plus ou moins près de chez soi, les rendez-vous avec un kiné par la suite, ou bien les soins à domicile. Bref, tout cela est très morcelé et s'appuie sur une forte coordination entre les professionnels de santé. Mais pour eux non plus, ce n'est pas simple. D'abord parce que leur charge de travail est de plus en plus importante, mais aussi parce qu'ils sont eux-mêmes isolés, physiquement, géographiquement et par spécialité bien sûr, alors qu'ils ont besoin d'une grande coordination à l'échelle locale pour couvrir une très large demande de soins. Et c'est entre autres pour faciliter cette coordination que sont nées les CPTS, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Alors dans cet épisode du podcast, on a profité de la participation du docteur Nicolas Homer au grand débat de la dernière université de la e-santé pour qu'il nous en dise plus sur ces CPTS, qui sont encore très récentes, mais dont on entendra encore plus parler à l'avenir. Bonjour Nicolas Homer.
Bonjour Nicolas.
Très heureux de vous avoir sur le podcast de l'Université de la e-santé et à l'Université de la e-santé. Vous êtes venu, entre autres, participer en tant que membre du jury au Trophée de la e-santé.
Exactement, donc merci de donner la voix au CPTS par mon intermédiaire. Et du numérique santé, ce qu'on peut faire effectivement entre nos communautés professionnelles territoriales de santé et le numérique santé. C'est toujours très agréable de venir à Castres.
C'est l'occasion pour vous de rencontrer justement d'autres des partenaires, des gens que vous suivez au quotidien tout au long de l'année ou avec qui vous collaborez ?
Tout à fait, parce qu'on a à la fois ce côté lien au vieil hôpital, on a un certain nombre à la fois d'institutionnels, d'établissements qui portent des projets d'innovation en santé, bien sûr de start-up en nouvelles technologies en santé, il n'y a pas que de la e-santé, les nouveaux projets d'IA, donc se confronter un petit peu aux différents projets qui sont installés dans l'écosystème médical.
Alors, vous êtes vice-président de la Fédération des CPTS et président de la CPTS du Sud Toulousain, entre autres choses, mais vous avez d'autres activités évidemment. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les CPTS, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'elles font, quel est leur rôle ?
Une loi de 2016, donc c'est une loi de santé qui a institué ces fameuses communautés professionnelles territoriales de santé. Tout est dans l'acronyme. On prend un territoire qu'on vient définir avec l'ARS de notre région, souvent, très souvent l'URPS, et on vient définir des actions qui sont identifiées, des actions socles et des actions secondaires autour d'un bassin de santé populationnel. Donc on a nos fameuses MSP, nos maisons de santé. Moi, je suis en MSP et on vient traiter nos patients. Et puis là, on a un territoire beaucoup plus grand. Pour vous donner un exemple, moi, je suis président d'un territoire qui regroupe 50 communes pour 150 000 habitants au sud de Toulouse. Donc on a un grand rectangle avec des forces et des faiblesses et on vient faire matcher ça, organiser. Donc il y a un an de réseau pour créer. Ensuite, un an pour écrire le projet de santé où on vient co-créer tous ensemble avec les professionnels de santé, donc les médecins et l'ensemble des 25 autres professions paramédicales, les établissements, les collectivités territoriales au travers du fameux CLS, un contrat local solidarité, et qui permet de travailler tous ensemble, à la fois les usagers qui siègent aussi à nos conseils d'administration et d'écrire des choses très pratiques pour les professionnels de santé et avec eux.
Ces projets que vous coécrivez avec les membres des CPTS, en quoi ça consiste et sur quel horizon vous travaillez ?
C'est un horizon plutôt moyen et quelquefois long terme. De temps en temps, ça peut être du très court terme. Une des missions socle, c'est l'accès aux médecins traitants. Donc demain, Nicolas, vous êtes sans médecin traitant. Vous avez frappé à la porte de 3-4 médecins qui vous ont dit bah non, vous ne savez plus et vous vous tournez vers la CPTS et vous dites voilà, moi j'ai telle problématique et je souhaite un médecin. Donc ça fait partie de nos prérogatives, des missions socles. L'une d'entre elles est aussi les soins non programmés. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler en autre acronyme, les systèmes d'accès aux soins, où on vient se structurer sur un territoire pour dire voilà, il y a un certain nombre de patients soit qui ont une demande et le médecin traitant est déjà occupé, n'est pas là, est en vacances, n'est pas remplacé, ou je n'ai pas de médecin traitant et j'ai quand même une nécessité de voir un médecin. Et donc on met en place des systèmes d'appels téléphoniques, ensuite qu'on rebascule sur un territoire qui permet de ventiler ou des fois simplement de donner des conseils à ces patients. Et puis on va dire que quelque chose qui est très très fort, qui anime nos CPTS, sont les parcours de santé. Des parcours, ça va être sur la psychiatrie, la gérontopsychiatrie, sur la pédiatrie, sur l'ensemble des missions de l'insuffisance cardiaque, où on vient en fait faciliter le travail de nos professionnels de santé, en collaboration toujours encore une fois avec nos usagers, c'est-à-dire nos patients au travers des associations. On peut citer France Asso Santé, qui collaborent vraiment avec nous. Et puis, on a une petite mission qui est celle aussi de s'occuper des professionnels de santé. Donc, on met en place des actions. Ça peut être la box à l'hôpital. Ça peut être un service de conciergerie ou de comité d'entreprise pour les libéraux. Parce qu'effectivement, un médecin aujourd'hui, je prends juste cette profession, parce qu'on a les statistiques, travaille plutôt 55 heures en moyenne, des fois 52, des fois un peu moins. On estime qu'autour de 40% des médecins seraient aujourd'hui en burn-out, un peu moins chez les autres professions. Mais ça veut dire qu'on est là aussi pour mettre en place des choses. Les cordonniers les plus mal chaussés, vous connaissez l'adage. Donc, on fait partie de ces professions qui s'épuisent, on l'a vu avec le Covid, et donc on a aussi dans nos missions, de façon très identifiée, à s'occuper aussi de notre communauté.
Et alors, je l'ai dit, vous êtes vice-président de la Fédération des CPTS, donc qui dit fédération dit que vraisemblablement il y a de la mise en relation, de la mise en commun. Est-ce que les initiatives que vous développez, que vous lancez à l'échelle de la CPTS du Sud Toulousain, remontent ? De quelle manière ça remonte ? De quelle manière on se parle entre les différentes CPTS ?
Alors vous avez tout à fait raison, il existe la Fédération nationale des CPTS qui a un rôle, qui a deux rôles. Un, très politique, de discuter avec les cabinets ministériels, de discuter des PPL, Valtou et ainsi de suite, avec un rôle très fort d'expertise aux côtés, hein, j'insiste, et pas à la place d'eux, aux côtés des syndicats de nos professions de santé. Donc on a des syndicats représentatifs et nous on a vraiment une mission d'expertise métier. Et nous sommes la seule fédération à travailler en pluriprofessionnel. C'est-à-dire que nous, on représente en fait ce qui se fait un petit peu sur le modèle anglo-saxon, les soins primaires. Et donc, sur ces soins primaires, on a en possibilité d'agir, de porter des projets au niveau national et forcément de capter ce qui se fait, l'intelligence collective dans chaque région, de le faire remonter. Et effectivement, notre fédération est assez fière d'aujourd'hui de compter plus de 90% des CPTS qui ont signé les ACI, c'est-à-dire que les CPTS qui ont des financements, qui sont matures, qui fonctionnent, et un certain nombre, même assez nombreux des professionnels qui au début n'ont pas encore signé les ACI et qui viennent chercher en fait des choses très très simples et factuelles pour aider à la construction de leur CPTS. À ce jour, notre fédération compte un collège des coordinateurs, c'est-à-dire on veut dire la pierre angulaire, les salariés de nos CPTS, un collège de 220 coordinateurs temps plein qui sont souvent tous des masters 2 de santé publique. Donc c'est une force considérable, bien sûr, voyez, ouais. De pouvoir compter sur des forces vives, opérationnelles et qui échangent énormément de façon très pratique sur les enjeux de santé des populations. Parce qu'effectivement, on peut avoir des différences entre Nice et la Vendée, mais on peut aussi de temps en temps se retrouver avec des problématiques où l'été, eh bien, leur population va tripler ou quadrupler. Eh bien, les bonnes initiatives du sud de la France peuvent être répliquées, pourquoi pas, en Vendée.
Et alors, pour rester sur le côté organisation des CPTS, est-ce que le maillage aujourd'hui sur le territoire français est complet ? Est-ce qu'il y a encore des trous dans le filet et de la place pour de nouvelles CPTS ?
Alors, peut-être pour les mieux informés, auront-ils vu ou rencontré le Tour de France des CPTS. Donc notre ministre, Mme Agnès Firmin-Lebaudeau, a demandé une mission flash et ils rendent les conclusions aujourd'hui. Il y a eu un Tour de France avec un DGARS, avec un directeur de CEPAM et l'une de nos membres qui siège au conseil d'administration de la CPTS, de la Fédé des CPTS, pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, de regarder un peu la cartographie. Et je pense qu'effectivement, les chiffres... Alors, on n'a pas encore lu à la place de la ministre, bien sûr, ce qu'il y a dans ce rapport. Mais les chiffres que nous, en tout cas, on a du territoire montrent qu'à horizon de la fin de l'année 2023, on couvrira autour de 80% du territoire français hexagonal. À La Réunion, je discutais avec des collègues réunionnais ce matin, ils sont déjà très très organisés, ils sont déjà à plus de 80%. Donc ça veut dire qu'on aura toujours des zones blanches. Aujourd'hui, un territoire ne peut fonctionner que s'il se voit. On a les Pyrénées pas très loin, chez nous, en Occitanie. Il est évident qu'une vallée ne peut pas travailler avec l'autre vallée. Donc on a des difficultés territoriales liées, en fait, et bien sûr, de temps en temps, des difficultés dues au maillage des professionnels de santé, avec des zones plus désertifiées. Et donc, on va dire qu'on peut estimer qu'à horizon mi-2024, on aura peut-être 85, peut-être 90% du territoire et qu'on sera un peu sur ce seuil ce plafond de verre sur lequel, à ce moment-là, on viendra, partage d'huile, récupérer tel territoire, dira, bah, écoutez, il y a un petit territoire qui n'est pas pris, là, vous avez une dizaine de communes, pas loin sur votre territoire, prenez-les.
Donc, on est quand même très bien, pour le moment, très bien servi, ou on voit d'être très bien servi en termes de la présence des CPTS sur le territoire. Rentrons dans le détail du rôle, et puis ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, et ici à l'Université de la e-Santé, l'apport du numérique au sens large. D'abord, quel rôle joue le numérique en interne, dans votre organisation, avant même de parler de la manière dont peut-être vous en faites la promotion, ou vous encouragez les usages, ou encouragez certains outils, comment est-ce que vous, à l'intérieur des CPTS, vous l'utilisez ?
Alors très clairement, loi de santé 2016, les premières CPTS sont nées en 2018. Sans le numérique, on ne se serait pas posé la question de faire cette loi et de commencer parce qu'on n'aurait pas pu le faire. Très clairement, vous imaginez, moi dans ma CPTS, j'ai 450 adhérents. Demain, envoyer des fax à tout le monde, d'envoyer des emails, des SMS, on ne s'en sort pas. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, quand on a une communauté, même n'importe qui peut se retrouver s'il fait partie d'une association. Aujourd'hui, quasiment toutes les associations de gym, de judo, de que sais-je, d'échecs ont un système interne où ils discutent, des choses comme ça. Bon, plus on est gros, plus on a besoin de numérique. Et donc, c'est essentiel. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de tout faire et de se précipiter, mais sans numérique, on n'aurait pas pu faire de communauté professionnelle, on va dire, assez rapidement et travailler tous ensemble. Le côté visio avec le Covid a permis d'accélérer ça, parce qu'en fait, pour créer le projet de santé, il faut se voir et faire des réunions. Alors bien sûr, on avait tous commencé, moi j'ai commencé ma CPTS avant, on faisait des réunions en présentiel et c'était très bien, on a ensuite converti. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos CPTS ? On a accéléré les projets de santé et l'émergence grâce au numérique, au visio, mais pas que, parce qu'on utilise des plateformes collaboratives où on vient déposer chacun ses idées et on travaille un peu plus facilement, on va dire, grâce au numérique. Donc ça, c'est pour la constitution. Et lorsqu'on a la constitution, le projet de santé, eh bien, il faut délivrer. Et délivrer, j'intervenais à votre demande sur les protocoles de coopération. Eh bien, encore une fois, le protocole de coopération, travailler entre deux personnes, aujourd'hui, si on n'a pas de numérique, ça va être très dense en papier et donc ça va être un frein. Et ce numérique va à la fois permettre de travailler ensemble et va être vertueux dans le sens où va amener une relation qui n'existait pas avant. Donc, vous voyez, on a deux phases pour la création de nos CPTS et ensuite pour la vie active en fonction des sujets que l'on veut développer.
Comment est-ce que la e-santé, le numérique, peut-être la téléconsultation, c'est l'exemple qui revient le plus fréquemment, comment interviennent-ils à l'intérieur ensuite de certains projets ?
Alors, je vais prendre plutôt le terme de télésanté, hein, plutôt que téléconsultation. La téléconsultation, c'est entre un patient et son médecin. On va la mettre de côté. Les outils numériques, ça peut être la télé-expertise. Vous voyez, aujourd'hui, on mène une action très forte en Occitanie qui est l'accès aux soins en dermatologie. Il y a des départements en Occitanie qui n'ont plus de dermatologues, qui n'ont plus de dermatologues. Et on a des populations de 200, 300 000 personnes qui n'ont plus accès à la dermatologie. Et d'autres où c'est vraiment très paupérisé. Et puis, on a des départements un peu phares où eh bien, il faut faire naître cette solidarité. Et la solidarité, ça veut dire qu'on ne va pas demander à toute personne de faire 200 km aller-retour pour aller voir un dermatologue en Haute-Garonne ou dans l'Hérault, mais ça veut dire qu'on peut peut-être utiliser un service de télé-expertise organisé, sécurisé. Le patient vient me voir avec une problématique et puis soit je suis en capacité de répondre, soit je ne sais pas et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nécessité qu'il voit le dermatologue. J'envoie une demande. Hein, écrite sur une plateforme de télé-expertise avec des images. On peut y greffer de l'intelligence artificielle dedans. Hein, vous voyez, ça permet de retenir, de se former. Donc, ça fait partie des services numériques à notre disposition aujourd'hui et de l'envoyer à des collègues dermatologues. Et on est fiers aujourd'hui de dire qu'en Occitanie, on est en train de mettre en place ce système-là. Mais avant tout, après avoir structuré le réseau, c'est-à-dire qu'on est allé voir, on a fait la tournée des hôpitaux, des dermatologues de ville, qui fait quoi, comment, on a structuré, et puis on a dit, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Effectivement, il y a ça qui arrive en outil, hein, et on n'a pas fait l'inverse de se dire, on va mettre l'outil, et donc il faut que ce soit aussi très organisé.
Ça veut dire que vous gardez un œil sur les solutions qui existent quand même et que vraisemblablement, vous êtes très sollicité pour utiliser certaines des solutions ?
Alors exactement. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. Et je discutais, j'ai un souvenir d'un petit déjeuner au ministère de la Santé en 2017 et qui me disait, Monsieur Omer, vous savez, on est très peu sollicité. les outils numériques, tout ça, on voudrait bien en voir plus. On n'est pas. Et puis, 2 ans après, avant le Covid, ils avaient déjà délégué la tâche aux ARS en disant, écoutez, nous, on est submergés, on ne s'en sort pas, tout le monde vient frapper à notre porte. Donc, débrouillez-vous, créez des structures et puis les gratte son nez, ainsi de suite. Donc, tout ça est allé très, très, très vite. Et c'est dans le bon sens. Alors, on sait qu'en en innovation en santé, on a 9 entreprises sur 10 qui vont malheureusement ne pas fonctionner par manque de modèle économique, par manque de viabilité, d'accès. Mais aujourd'hui, il faut savoir faire une veille, effectivement. Il faut savoir encourager. Je crois que nos pouvoirs publics l'ont pris en compte. On encourage, on soutient par les conseils régionaux, le développement économique, un certain nombre d'entreprises. Et puis, effectivement, la longue voie, vous en parliez du device, hein, du medical device pour être rembourser, ça c'est la voie ultime, hein, mais déjà pouvoir l'utiliser, ouais. Il faut qu'il y ait déjà une certification Medical Device classe 1, beaucoup plus souvent 2A ou 2B en fonction de soins, voire du 3. Et tout ça est un chemin qui va prendre au moins 2 ans dès qu'on a commencé déjà à finir la RD. Donc vous voyez, on est sur une échelle de 3, 4, 5 ans au plus vite.
Parmi les solutions que vous avez pu voir passer aujourd'hui et hier dans le cadre de votre rôle en sein de jury des trophées de la e-santé, est-ce que, sans dévoiler ni les résultats, ni peut-être les secrets de fabrication, est-ce que certaines vous ont interpellé par leur potentiel ou même leur utilité qui pourrait être très bénéfique aujourd'hui ?
Oui, Nicolas, je crois que c'est important parce que ce sont des gens qui se mettent vraiment à nu lorsqu'on est start-upper, entre guillemets, qu'on monte une entreprise. Et il faut savoir les écouter avec beaucoup de bienveillance. Tous ont pris un cas d'usage. Hier, un chef d'entreprise qui disait, vous voyez, moi, j'ai eu l'idée parce que c'est ma maman qui est rentrée en EHPAD, qui est devenue Alzheimer. Et j'ai eu cette idée. Bon, c'est parti. Alors, entre l'idée, bien sûr, et le fait que ce soit viable sur un modèle d'affaires convenable, ça prend du temps. On a vu, et on était ce midi à discuter, à revoir l'ensemble des entreprises. Je dirais que nous avons des choses, qui sont hyper techno. C'est génial. On se dit, tiens, ils sont vraiment à l'avant-garde. Ils utilisent des technos qui sont bien. On a de l'intelligence artificielle. On peut avoir de la blockchain. Tout ça est bien lié. Mais est-ce que la cible est bonne ? Est-ce que les patients vont pouvoir ? Bon, on en discute. Ensuite, on a vraiment des entreprises qui ont des choses très, très saines, avec des valeurs très fortes qu'on a vues encore. Et ça, je crois que c'est vraiment remarquable de se dire, on va prendre un cas d'usage. Le modèle économique, peut-être on le réfléchira après, mais on voudrait solutionner telle problématique du handicap de telle population et ainsi de suite. Donc, vous voyez, une cible beaucoup plus réduite, mais qui est vraiment remarquable de pouvoir adresser, et des fois sur le médico-social, qui est souvent un peu le versant un peu abandonné. Donc, je tiens vraiment à saluer encore une fois cette promotion. Ça fait 18 ans que les universités existent, que je suis avec vraiment assiduité. On a toujours des petites pépites. Et je crois qu'on peut dire merci aux universités de la e-santé, les mettre en valeur et d'apporter aussi, ça c'est important, des éventuels partenaires, des institutionnels qui peuvent les voir, co-construire, dire ben voilà, tiens, ça c'est une bonne idée. Si vous voulez, je mets à disposition mon établissement, ça peut être notre CPTS, ça peut être d'autres fonds à disposition. Et puis on verra, on se laisse. Hein. Les Américains et les Anglais disent test and learn. Et puis ensuite, on voit, on n'est pas obligé de gagner à tous les coups. Mais en tout cas, de mettre aussi de l'énergie à côté de ces entrepreneurs pour leur donner le coup de main. Et on a vu des choses quand même assez matures dans cette promotion.
À l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, dans quelques minutes va commencer la remise des prix des trophées de la e-santé. Donc on va pouvoir s'y joindre, donc je vais pouvoir me joindre à vous. Merci de vous être arrêté par le studio en tout cas, d'avoir enregistré ce podcast avec nous. Et bonne continuation et à bientôt.
À bientôt, merci Nicolas.
Merci. Pour retrouver toutes les interviews de l'Université de la e-santé, rendez-vous sur la chaîne du podcast. Elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes ou bien à suivre l'université sur les réseaux sociaux. À bientôt !